Des livres plein les oreilles. Nouvelle année pour nous tous. D'ailleurs, je vous la souhaite absolument belle et bonne. Et nouvelle année aussi pour l'émission des livres plein les oreilles qui recommence comme elle avait terminé, c'est-à-dire avec un paquet de livres que nous allons vous suggérer. Mettons, avec des invités toujours aussi nombreux à cette émission-là. Alors aujourd'hui, en ce 5 janvier 2017, on va retrouver l'ami Gérald Cousineau. On va aussi s'adresser à François Côté. Vous le savez, c'est un bénévole ici qui participe assez régulièrement à l'émission comme chroniqueur, ainsi d'ailleurs que Monsieur Cousineau. Et puis, il est déjà ici à la table, en studio. J'accueille aujourd'hui Marc Cassivi. Bonjour Marc.
Bonjour.
Ravi, on va parler de France. Anglais, figurez-vous, parce que Marc, il est trilingue, il parle français, anglais et franglais. Alors, on va en parler, ne manquez pas ça, mais tout de suite, on va rejoindre l'ami Gérald Cousineau. Bonjour Gérald et bonne année.
Bonjour Clotilde, bonne année à toi également.
Ouais, en tout cas, je sais plus quoi souhaiter aux gens, parce que la santé, bah oui, mais de toute façon, comme on rajeunit pas, comme dirait l'autre, alors va falloir qu'on fasse avec ou qu'on fasse sans la santé. Hein.
Non, je nous souhaite plein de bonnes et belles lectures.
Voilà. Exactement, Gérald. Et puis là, vous aviez envie de nous parler de ce livre de Boualem Sansal qui s'appelle 2084, La fin du monde. Évidemment, un gros clin d'œil à 1984 de Monsieur Orwell.
Voilà qui commence bien une année, hein, la fin du monde.
La fin du monde sur Canal M avec Gérald Cousineau.
Alors, Boualem Sansal, c'est un auteur d'origine algérienne. C'est un roman paru en 2015 chez Gallimard et qui a gagné le Grand Prix de l'Académie française 2015.
Bon, quand même.
C'est pas très gros, c'est pas une brique, hein, ça fait 274 pages, je pense. Et je signale tout de suite, avant de l'oublier, que Boualem Sansal a écrit un autre roman sur l'intégrisme. Ça s'appelle « Le serment des barbares », paru en 1999, et on l'a également au SQLA.
Merci d'avoir fait la recherche pour moi.
Alors, donc, 2084, la fin du monde de Sansal. Eh bien, tout de suite, je vous signale, je vous donne la phrase en exergue parce qu'elle nous met dans le bain. Hein.
Oui. Ah oui.
Elle n'est pas signée, mais il écrit.
C'est dommage, ça, d'ailleurs.
« La religion nous fait peut-être aimer Dieu. » Mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. Ouais. Et suite à ça, il y a un avertissement dans lequel il écrit, entre autres choses, « Le lecteur se gardera bien de penser que cette histoire est vraie ou qu'elle emprunte à une quelconque réalité connue. Non, véritablement, tout est inventé. » Et il ajoute plus loin, « Dormez bien, bonnes gens. » Bon.
Ah oui, effectivement.
Oui.
Dormez tranquille. Oui, on peut sourire parce que quand même.
Oui, parce qu'on pense à Daesh, on pense évidemment à la Corée du Nord, dont j'ai déjà parlé. On pense à l'Iran. Bon, démocratie s'il en est. Alors donc, 2084, eh bien, l'Empire s'appelle l'Abistan. A-B-I-S-T-A-N. Pourquoi? Eh bien, il tire son nom du prophète Abi, qui est le délégué de Yola sur Terre. D'où le nom, donc, Abistan. Donc, dans cet empire, dont on ne connaît pas très bien les frontières, d'ailleurs, même les ressortissants ne savent pas trop bien où l'empire finit. Est-ce qu'il finit, d'ailleurs, quelque part, ou s'il couvre toute la planète, on ne le sait pas. Et cet empire semble, je dis bien, semble être né en 2084, mais encore là, la date fait mystère. On suppose qu'avant, enfin, l'empire stipule qu'avant, il n'y avait rien. Bon, avant l'Abistan, il n'y avait rien. Donc, il n'y a que l'Abistan. Et bien sûr, Yola. Dieu unique. Donc, les gens vivent dans ce bonheur d'une foi unique. Ils ne se posent pas de questions, sauf un obscur petit fonctionnaire nommé Ati. Notez les deux syllabes, parce que dans ce pays, les noms portent en général une ou deux syllabes au maximum. Il y a comme une tentative de rétrécir également le vocabulaire pour empêcher les gens, justement, de formuler des idées ou des concepts. Plus les mots sont courts, plus d'après le régime, ça semble difficile de penser par soi-même. Donc, ce monsieur Ati décide, lui, après avoir passé un an dans un sanatorium, parce qu'il avait la tuberculose, ben, il commence à se poser des questions, il commence à douter. Alors, en revenant du sanatorium, imaginez-vous, ça lui prend un an pour rentrer dans la capitale. Un an! Alors, on peut penser que l'Empire est très vaste ou que les moyens de communication sont curieux. En fait, il y a autant là-dedans...
Il revient comment, d'ailleurs, à pied, en auto?
Oui, il revient à pied, en bonne partie, à dos de mulet. On dit, c'est curieux, quand même, parce que là-dedans, on nous dit que l'Empire a des avions, des hélicoptères, tout ça. Et pourtant, lui, il fait une bonne partie du trajet à pied, à dos de mulet. Donc, il met un an à revenir chez lui. Et durant son retour à la maison, il va parler à un archéologue qui s'appelle Ram, qui, lui, a découvert les vestiges d'un village qui pourrait ébranler les fondements de l'Empire. Ça, c'est grave. Et évidemment, comme par hasard, ce monsieur va disparaître. Alors, Ram, donc, rentre chez lui, et là, il est attiré par des renégats, parce qu'il y a, malgré tout, dans cet empire, des ghettos habités par des renégats, ou reines, parce qu'on rétrécit le vocabulaire, encore une fois, reines. Alors, il arrive à s'y rendre, ils sont pourchassés, en même temps tolérés par le régime. Donc, il s'y rend, et là, il découvre un monde tout à fait différent. Les gens parlent d'autres langues que la langue sacrée, qui est, je ne l'ai pas dit, mais la bilangue. Pensez aux neuf langues, à la neuf langue de Orwell.
Non, mais de toute façon, tout ce que vous racontez pour l'instant, on s'entend que nous sommes sur deux voies parallèles.
Voilà, parce que dans 1984 de Orwell, il y avait un personnage qui s'appelait Smith, je pense, qui lui se posait des questions, sauf que lui avait à un moment donné une relation amoureuse. Il n'y en a pas du tout dans 1984. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Donc, Attie se rend dans ce village de renégats où les femmes, entre autres, sont libres. Autre surprise de taille. Donc, il revient chez lui et là...
Elles sont libres de faire quoi? Parce qu'elles sont libres,
On ne dit pas. On devine que l'alcool coule à flot, les gens s'expriment dans des langages qu'on croyait disparus. Donc, ils mènent apparemment une belle vie.
OK.
Donc, tout en étant détesté du régime, mais quand même toléré. Donc, Attie revient chez lui et là, c'est maintenant la frontière qui l'intéresse. Mais le problème, y a-t-il une frontière? Il va se documenter, il va essayer de savoir, mais elle est où cette frontière-là? Ça l'intrigue. Il veut, bien sûr, franchir cette frontière-là. C'est ça, finalement, c'est autour de ça que tourne l'intrigue. Et c'est quand même, pour moi, enfin, j'ai trouvé ce livre passionnant. Évidemment, comme vous l'avez dit, Clotilde, on pense à 1984.
Oui, ça c'est clair.
L'auteur l'assume carrément.
Ouais, assume 2084, c'est assumé, ça.
Mais c'est donc cette quête d'Attie. Évidemment, on trouve le personnage extrêmement sympathique, même si on ne sait pas trop exactement les tenants et aboutissants de cette quête, parce que moi, j'ai trouvé que ce n'était pas d'une clarté absolue, le récit. Il y a des passages un peu plus obscurs. Quand on nous parle d'une guerre des clans dans l'Empire, mais là, on s'y perd. Parce qu'il y a la chicane entre Ram, Tog, des noms comme ça. J'avoue que je n'étais pas trop sûr qui était contre qui, mais chose certaine, le régime, bien sûr, a la main lourde. Mais Attie, d'après ce qu'on comprend, va s'en tirer. Et le roman, curieusement, se termine par une sorte de revue de presse.
Oui.
Alors, on n'en est pas à une première surprise près, mais...
Une
revue de presse.
À quoi ça ressemble la presse écrite dans ce monde-là?
Des titres de journaux qu'on ne connaît absolument pas, des journaux de cet empire-là. Mais on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est comme si c'était... est-ce que c'est une façon pour Sansad de terminer un roman sans le terminer? Je ne sais pas. Mais on en voudrait plus. On ne sait pas trop ce qui va arriver à Attie, sauf que évidemment, il est bien parti, mais est-ce qu'il va être récupéré? Possible, on ne le sait pas exactement.
Je lisais dans une critique parue dans Télérama en septembre 2015, on parle d'une fable puissante, avec de l'humour.
Un peu, oui.
Un peu. Le propos est glaçant et on nous dit dans cette critique-là que, et je m'excuse, j'ai oublié de prendre en note le nom du journaliste ou de la journaliste. En tout cas, que 2084 est un livre hors du commun, une mise en garde adressée par l'auteur à ceux qui, selon lui, sous-estiment le danger islamiste.
Oui, alors, parce qu'il ne faut pas se compter d'histoire. On devine bien qu'il se cache derrière l'Abistan, qu'il se cache derrière Yola, qu'il se cache derrière Abiy. Quand on parle de fondamentalisme, d'intégrisme, Hein.
Mais d'après lui, à un moment donné, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais si j'entends bien, c'est que finalement, la boule entière, la terre entière, à un moment donné, deviendrait islamiste et un
oui,
seul État.
Oui, c'est ce que Sansal fait depuis deux décennies. Il nous met en garde contre, d'ailleurs, dans le serment des barbares dont je parlais, ben, il racontait les ravages déjà de l'intégrisme. On sait que l'intégrisme islamique a fait du mal à l'Algérie des années 90. Et ben là, il va un peu plus loin. Il imagine que ces gens-là ont pris le pouvoir et, semble-t-il, sur la planète entière. Et on n'a pas tellement envie de vivre ça si ce que raconte Sansal est 10% de la réalité, disons-là.
J'ai envie de vous redire « Bonne année, mon petit
!» Non, mais en même temps, c'est noir, évidemment, c'est noir. En même temps, c'est un livre, malgré les petites difficultés qu'il m'a causées, c'est un livre formidable, formidable. Bon. Autant celui de Orwell est formidable, autant celui de Sansal, je pense, n'a rien à envier à son prédécesseur.
Alors moi, je recommande aux gens, vous vous tapez celui-ci, 2084, vous enchaînez avec Soumission, et voilà. Et puis vous vous mettez une chanson de Barbara entre les deux oreilles, et vous montez sur le pont Jacques Cartier. Et bonne année, tout le monde!
Mais dans Soumission, au moins, le parti musulman gagnait démocratiquement les élections.
Oui, absolument.
Alors que là, évidemment, on ne parle même pas de démocratie. D'ailleurs, juste avant de l'oublier, dans son sanatorium, c'est une scène assez curieuse, Hattie va prononcer lentement, en découpant les syllabes, le mot « liberté ».
Ah,
c'est comme
s'il
découvrait que ce mot-là, en trois syllabes, existe encore. Et là, c'est là où ça marche chez lui une prise de réflexion. Il va commencer à réfléchir. Mais écoutons, est-ce qu'il y a autre chose que l'écrasement de l'homme par la religion? Est-ce qu'on peut vivre? Et quand il se rend dans le village de Renégat, dans le ghetto, il se rend compte que non, l'homme peut vivre sans religion. Et là, il est entré dans ce que l'auteur appelle la mécréance.
Oui, absolument, absolument. Écoutez, mon ami, je vous écouterai parler pendant des heures.
Ah,
vous le savez, là, pendant que vous nous parliez, là, j'essayais de retrouver, mais peut-être que Marc Cassivi, lui, il a encore en mémoire, il a une phrase sur tout ce qui est démocratique. Et je ne vous retrouve pas, Marc, enfin, en tout cas, c'est une citation sur la démocratie. Et je sais que la connerie, il y a la connerie là-dedans, ça, mais on va le retrouver avec Marc Cassivi. Merci beaucoup, Gérald. Alors, je rappelle que vous nous parliez du livre 2084, La fin du monde, un roman de Boualem Sansal, je vais l'appeler S-A-N-S-A-L, maintenant disponible via l'USQLA ou par CAEB. Merci.
Voilà. Au plaisir.
Au plaisir, merci. Et je reçois, vous le savez maintenant, on s'est déjà salué un petit peu plus tôt, Marc Cassivi, ça va bien?
Très bien.
Vous aviez lu ce livre de M. Sansal?
Non, je ne l'avais pas lu. J'ai lu Soumission de Houellebecq, Sansal, je voulais le lire, je ne l'ai pas lu encore.
Alors moi, je me suis délecté de cet essai que vous avez publié, il y a déjà un an maintenant, si je ne m'abuse, et qui s'appelle « Mauvaise langue ». Bon, et c'est certain que, en tant que Française d'origine, vivant ici depuis 30 ans aussi, j'avais très, très hâte de voir ce que vous y écriviez, quoique j'avais déjà lu quelques-unes de vos chroniques sur le sujet dans la presse, donc je savais déjà à peu près c'est ça, où vous vous logiez, comme vous dites. Je voudrais commencer... si vous me le permettez, par la première citation du livre, qui est de M. Dubellay, qui dit « Ce n'est point chose vicieuse, mais grandement louable, emprunter d'une langue étrangère les sentences et les mots et les approprier à la sienne. » On est en 1549. Hein? Alors, pourquoi est-ce que finalement on le reprocherait au peuple québécois et même aux Français? Qu'en pensez-vous?
Oui, par crainte peut-être. Moi, je parle notamment du rapport à l'anglais, qui est un rapport difficile, qui est chargé de toutes sortes de choses, notamment de ce statut minoritaire, évidemment, de francophone au Québec. Et souvent, c'est drôle parce que les Français, on va reprocher au Québec, aux Français, d'utiliser des mots anglais. Mais c'est justement que les Français, je pense, n'ont pas cette espèce de complexe vis-à-vis de la langue anglaise. Ils vont emprunter aussi de l'italien, ils vont emprunter des mots allemands, ils vont emprunter
des
à gauche
arabes,
et à droite, et arabes.
Exactement.
Oui. Et intégrer ça dans la langue. Nous, on a cette espèce de rapport, à mon avis, malsain avec l'anglais. Et j'avais envie d'écrire là-dessus.
Et c'est ce que vous avez très, très bien fait. Je vous cite, hein, bien sûr. Pour vous, une langue n'est pas une prison. Le franglais est pour vous un signe distinctif. Et vous dites que c'est le franglais aussi un état de fait bien plus qu'un signe distinctif.
Oui. Puis le franglais, c'est un peu...
Bien plus qu'un état d'esprit.
Oui, c'est plus qu'un état d'esprit. Dans ma famille, notamment, ouais. Parce que j'ai grandi, c'est un parcours biographique aussi. C'est un essai qui se voulait sans prétention. Je savais qu'il allait faire réagir. Il a beaucoup fait réagir, d'ailleurs, depuis un an. Mais c'est aussi le parcours biographique d'un petit gars né en Gaspésie, à Gaspé, qui a grandi dans l'ouest de l'île de Montréal, où les gens parlent beaucoup anglais. Et donc, ce franglais est devenu la langue un peu de la fratrie. C'était une façon, mon frère jumeau, j'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux aussi, donc deux couples de jumeaux. C'était notre langue à nous, notre façon de dialoguer sans trop que nos parents comprennent. Et donc, on était entre l'anglais et le français, des mots inventés. Puis c'est devenu un peu notre langue, notre espèce de seconde nature. On se parle encore comme ça. Quand on se retrouve, on s'est retrouvé dans le temps des fêtes et on parle encore de cette manière-là. Et puis, j'en suis pas particulièrement fier, mais ça m'habite, ça fait partie de moi.
Et vous nous prouvez, si tant est qu'il faille le prouver, que ce n'est pas parce que vous vous exprimez en franglais à un moment donné avec votre fratrie que vous ne possédez plus la langue française.
Non, c'est ça.
Ni par l'oral, ni par l'écrit.
Non, et je pense qu'il faut arrêter aussi de voir l'anglais comme cette espèce de langue du conquérant qui va annihiler le français. Ouais. Je pense qu'il faut aussi se défaire de certains complexes par rapport à notre langue. Sans dire qu'il faut qu'on embrasse le franglais, ce que je veux dire, c'est si on est dans une position où on considère que le français est protégé, notamment par la Charte de la langue française, évidemment, il faut rester vigilant, mais je pense qu'on est à une époque, en tout cas, de la croissance du Québec et de son évolution historique, où on peut aussi se défaire de certains complexes.
D'ailleurs, vous dites en page 35, hein, je vous cite, « Les francophones doivent comprendre que ce n'est pas en niant, ça c'est quelque chose que vous aviez écrit dans une chronique qui s'intitulait « Je suis l'anglais du corridor ».
Oui, j'avais 17 ans, j'étais au cégep. C'est et ça. Et je me rendais compte en la relisant, malgré toutes ces maladresses, que sur le fond, j'étais resté, disons, cohérent avec ma pensée d'adolescent.
Alors, donc, vous disiez, en tant qu'adolescent, les francophones doivent comprendre que ce n'est pas en niant ou en rejetant l'existence du fait anglais dans la société québécoise qu'ils deviendront plus québécois. 25 ans plus tard, j'en suis encore convaincu.
Oui.
À l'époque, je ne parlais pas du franglais. On ne parlait jamais de franglais entre nous. On le parlait.
Oui, c'est ça.
C'est tout.
Oui, c'est ça.
Hein?
Exactement.
Alors que maintenant, on le nomme.
Oui.
Christian Rioux, c'est pas un ami à vous du tout.
Non, pas vrai.
Écoutez, je me permets de le nommer parce que vous le nommez d'ailleurs à plusieurs reprises.
Oui, c'est un peu l'impulsion, en
fait. C'est ça.
C'est la bougie d'allumage de ce livre. J'avais écrit une chronique pour répondre à Christian Rioux, qui est donc correspondant du Devoir à Paris, on partage pas trop une vision commune, beaucoup plus à droite que moi, et notamment sur la langue, et qui jetait, je trouve, sur le Québec un regard avec une certaine distance, une certaine condescendance, un peu... comme si le Québec qu'il avait quitté avait pas évolué, puis qu'on était condamné à disparaître dans cette mer anglophone. Et donc j'avais écrit une chronique et une éditrice m'a dit, pourquoi t'en ferais pas un livre à partir de cette chronique?
C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Puis là, vous avez cherché l'angle et un jour, l'angle vous est apparu. C'est effectivement votre vie, finalement.
Oui, c'est ça. Je me suis dit, je suis pas linguiste, je suis pas sociologue. Est-ce que j'ai vraiment, je disais à cette éditrice, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? Je suis pas convaincu. Puis je me suis dit, le parcours biographique, au moins, ce sera incarné. Je vais parler au jeu et puis je vais raconter mon histoire. Je pense qu'il peut y avoir certains échos.
Et vous faites partie de ces gens qui pensent même, qui vont jusqu'à dire qu'apprendre une autre langue comme la langue anglaise, ça ne peut que faire du bien au français, finalement.
Oui, c'est une richesse. Et d'ailleurs, il y a des études sur la linguistique qui démontrent que plus on assimile de langues et mieux on finit par... maîtriser la nôtre.
Et exactement.
Puis,
je
pense que c'est tout à fait logique. Puis c'est une question d'ouverture, d'ouverture intellectuelle aussi à l'autre.
Et justement, parlant d'intellectuel, c'est d'après vous aussi, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, enfin du moins beaucoup, c'est aussi ce qui a permis à des gens comme Xavier Dolan de devenir tout d'un coup cette espèce de vedette internationale.
Oui.
Aussi, c'est que partout où il va, ce gars-là, il peut s'exprimer autant en français qu'en anglais, tout
oui.
en utilisant beaucoup un langage que M. Ryu ne peut pas supporter
oui,
dans
ça.
Ses films.
Oui.
Mais quel langage qu'on parle ici?
Oui, exactement. En fait, c'est un langage qui correspond à certains personnages. C'est une langue de création. Et ce que je reprochais beaucoup à Christian Ryu, qui parlait notamment du franglais utilisé dans le rap québécois, c'est de ne pas accepter cette liberté que se donnent
oui,
les artistes
oui,
de
oui.
créer des personnages, d'avoir une langue de scène qui n'est pas nécessairement un langage châtié, qui n'est pas le français normatif ou standardisé. On acceptait cette couleur-là. Et Xavier Dolan, je trouve, est un ambassadeur de ce Québécois décomplexé qui va travailler autant en français qu'en anglais. Moi, je l'ai suivi en France, notamment à Cannes.
Ah, oui.
C'est vraiment un
ouais.
phénomène. Je veux
oui,
dire,
oui.
J'ai pris... il venait de remporter son prix... pour Mommy, son prix du jury. J'ai pris la limousine avec lui jusqu'à l'endroit où avait lieu la réception
oui.
avec le reste des lauréats. Et je sors et puis je veux dire, il y a des flashs, les caméras, les paparazzis. C'est vraiment, on mesure mal ce phénomène-là au
oui.
Québec parce qu'il
oui.
est, c'est
oui.
le petit cousin, le petit neveu et
oui.
tout ça.
Oui.
Mais en France, c'est vraiment un phénomène. Et je trouve que de lui reprocher, par exemple, de monter sur scène et qu'une partie de son discours soit en anglais parce qu'il s'adresse à tout le monde, c'est un peu petit, c'est un peu provincial et puis je regrette ça.
Absolument. Vous écrivez au sujet du multiculturalisme qu'il illustre sans doute, Marc Cassivi, l'un des plus grands malentendus entre le Québec et le reste du Canada. Pour la plupart des intellectuels du rock, écrivez-vous, le multiculturalisme symbolise l'ouverture d'esprit, la tolérance et la générosité. L'essence même de ce qu'est la canadienneté jusqu'à être obséquieux et à s'excuser d'exister comme le veut le cliché du Canada aux États-Unis. Il faut dire que après avoir grandi à Gaspé, après avoir vieilli à Westmount, après avoir vécu et étudié en France, vous vivez maintenant dans le Mile End,
oui.
qui d'après vous est certainement le cœur multiculturel de la ville de Montréal.
Ça fait certainement partie et c'est un des quartiers où il y a vraiment cette espèce de vivre ensemble entre notamment les communautés francophones et anglophones où mes voisins anglophones sont très francophiles, où mes voisins francophones sont ou bien franco-ontariens ou très ouverts à la culture anglaise. Et donc, cette espèce d'idée d'un schisme entre les Français et les Anglais, moi, je le vis pas au quotidien. Donc, il y a une espèce de... Je trouve que c'est un exemple de vivre ensemble. Il faut pas non plus... C'est pas...
Non, c'est ça.
C'est pas le paradis, là.
Non, mais... non, non. Mais enfin, comme vous dites, il faudra un jour qu'on cesse de mettre tous les mots de la société québécoise sur le compte du multiculturalisme
oui.
canadien.
Oui, exactement. Non. Je pense que oui.
Même
si, de manière politique, on peut dire peut-être que ce multiculturalisme tel qu'il a été imaginé, peut-être par Pierre-Elliott Trudeau, visait à minimiser l'influence des francophones ou du Québec ou de les fondre un peu dans une masse. Moi, je comprends cette critique-là. Après, d'embrasser différentes cultures et de s'ouvrir aux autres, il me semble que c'est une richesse.
J'ai eu honte à quelques moments.
Marc
Cassivi en lisant Mauvaise langue parce que bon, c'est sûr que vous réglez un petit peu vos comptes parfois avec les
oui.
Français et vous avez bien raison de le faire d'ailleurs mais en tant que Française, forcément, il y a des fois où je me suis sentie un petit peu mal même si évidemment je me considère pas faire partie de cette
oui,
gang-là,
oui, oui.
mais j'ai par exemple toujours honte, moi personnellement, lorsque je suis en France avec des Québécois et que j'entends tous les Français dire qu'est-ce qu'il dit, alors que c'est parfaitement clair. En lisant votre livre, bon, vous rappelez cet épisode tellement nul de l'autre imbécile à la télévision, Ardisson,
oui, Ardisson.
Qui avait vraiment agressé, du moins par la
oui,
parole,
Nelly
Arcand, qui était complètement bon. Il y a aussi ce moment où vous racontez le repas entre Français, avec des Français
ou
ouais,
le Québec. Ça m'avait marqué, ouais,
ouais.
c'est ça.
Et pire encore... lorsque vous dites, et ça c'est vrai, je l'ai vérifié il y a encore peut-être 2 ou 3 ans, que la littérature québécoise n'est tellement pas dans les librairies françaises,
non.
Quoi.
J'ai interviewé récemment Stéphane Rousseau, qui a cette carrière aussi en France. Et qui me disait, on nous dit souvent, il est charmant votre accent, mais on ne veut pas vraiment l'entendre. Il dit, j'étais sur le tournage d'Astérix, il faisait un petit rôle dans Astérix.
Oui.
Et il dit, pendant 72 jours de tournage, il y avait un acteur que je nommerai pas, qui tous les jours se moquait de mon accent
en l'imitant
très mal. Il dit, mais...
Je comprends pas. Mais vous savez, en même temps, regardez, ça fait 30 ans que je suis là, puis on continue de me le faire aussi assez régulièrement.
Exactement. Oui, il y a la contrepartie aussi, hein, de toute façon.
Je pense aussi que ça dépend, que c'est aussi un problème individuel. Quoi. C'est un problème d'individu à ce moment-là.
Et j'en parle dans le livre, des complexes québécois. Vis-à-vis de la France.
Absolument.
Et puis je pense qu'il faut aussi s'en défaire d'une certaine manière.
Oui.
Il faut cesser de toujours voir la France comme la métropole culturelle inaccessible. Oui. Puis si on y réussit, enfin, on est quelqu'un. Là.
Et alors, vous parlez beaucoup aussi en France de l'importance. Vous avez l'impression que les Français portent les Américains sur un piédestal, ONU. En tant que Française, je vais m'inscrire un petit peu en faux, si vous me le permettez, parce que moi, j'ai le souvenir de mon père, qui avait donc connu la libération, comme encore beaucoup de Français qui sont en vie, même s'ils ne sont plus de la première jeunesse. Pour ces gens-là, l'Amérique, c'est la liberté, c'est-à-dire c'est la libération, c'est la première fois qu'ils mangeaient du chocolat, les cigarettes américaines, la musique américaine. Et je pense que ça fait longtemps que je le dis, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en plus, toutes les invasions depuis des siècles et des siècles amènent avec elles leur vocabulaire. Comme par exemple tous les mots arabes qu'on a dans notre... en Allemagne, il y a plein de mots français. Si vous allez en Allemagne du Sud, un porte-monnaie, ça se dit ein porte-monnaie. C'est pour les mêmes raisons. Et là où je veux en venir, c'est que souvent, quand j'habitais encore là-bas, les Anglais nous abordaient en anglais. Pour eux, c'était comme normal, il fallait qu'on parle anglais. Et ça nous agaçait. J'ai déjà vu, moi, des Anglais qui me demandaient la route du Havre et je les ai amenés à Dieppe, quoi. Parce que, donc, ils ont pas pris le bon bateau. Et je me demande, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'à Paris, beaucoup, il y a énormément d'enseignes comme à Montmartre. C'est que c'est la langue de la communication. Et c'est ce que vous dites aussi dans votre bouquin.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un phénomène récent qui est un peu ce côté business, les Français qui veulent montrer... Je pense que ça date un peu de l'ère Sarkozy, de être donc en affaires à l'américaine et donc de montrer qu'en France, on n'est plus ce peuple qui n'a pas le sens des affaires comme les Américains. Puis des fois, ça peut devenir un peu aussi agaçant.
Marc Cassivi, il retourne. Il ne reste plus que 45 secondes. Pouvez-vous le croire? On jase. Regardez-vous, vous êtes un homme de métier, vous allez être capable. En 35 secondes, vous trouvez vraiment que dans les médias, on parle mieux maintenant que dans le temps?
Bien, il y a des spécialistes qui ont fait le comparatif.
Mais vous?
Et qui dit, moi, je trouve que oui. Je trouve que il y a un moins grand décalage.
Presse écrite, oui, je suis d'accord.
Oui.
Audio, télévision.
De façon générale, je dirais oui.
Bon, allez, on s'en reparle à une prochaine occasion. C'était Marc Cassivi, mesdames et messieurs, qui était là pour l'émission Des livres pleins les oreilles et qui est venu nous présenter Mauvaise langue, maintenant disponible. Merci Marc Cassivi.
Merci Christine.
Au revoir. Des livres pleins les oreilles. Et c'est la seconde partie de cette émission de Livres pleins les oreilles, première émission de l'année 2017 et premier bénévole à participer cette année, c'est François Côté. Bonjour François.
Bonjour.
Bonne année François.
Ben oui, bonne année. Écoutez, un peu en retard, quelques jours en retard.
Oh ben quand même, on est le 5, c'est quand même pas
demain,
si mal.
C'est les rois.
Oui, absolument.
Ce sont les rois ou c'est les rois?
Ah, non, mais c'est vrai.
Ben oui.
Alors, vous allez donc aller acheter la petite galette?
Oui, et faire un roi ou une reine avec la couronne. Au Canada.
Ben oui. Écoutez, François, oui. Vous avez décidé aujourd'hui de venir nous parler de ce livre qui s'appelle « Objet d'amour ».
Absolument.
Et je vous laisse citer le nom de l'auteur.
Alors, vous me laissez le citer parce qu'on ne sait pas exactement. Moi, je
ne
sais pas exactement
comment
le prononcer, mais c'est René de Cecatti.
Ah, Cecatti. Ah ben, voyez-vous, j'aurais fait une erreur, j'aurais peut-être dit Che, moi.
Ah ben, écoutez, j'ai hésité longtemps. Quand j'hésite, moi, dans les mots étrangers, j'aime bien faire comme le français, la langue française, c'est-à-dire je lis ce que je vois.
Oui.
Sauf quand ça conduit à des situations impossibles. Mais René de Cecatti ou Cecatti, parce qu'on dit Cecatti, est-ce qu'on devrait dire Cecatti ou enfin.
Oui, en tout cas, mais regardez, peu importe. Oui. Peu importe. C'est donc Cecatti.
Voilà.
Qui est un auteur, mais qui est un éditeur aussi, hein?
C'est un homme orchestre, justement. J'étais en train de faire de petites notes avant de vous parler. Mm-hmm. Et ça m'apparaît être un auteur encyclopédique. C'est un traducteur de l'italien, du japonais, de l'anglais. Mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Mm-hmm. Et je ne suis pas très roman. J'ai eu l'occasion de vous dire, je ne suis pas très roman. Mm-hmm. Et je me méfie des romans d'histoire, des romans historiques. Mm-hmm. Par contre, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, là, qui est un roman, mais alors là, j'ai été emballé.
Ah oui, hein?
Pour différentes raisons. Je m'intéresse également à la création, c'est-à-dire comment est-ce qu'un artiste arrive à produire donc une œuvre. Qui est une recherche quoi, de l'absolu, de l'idéal.
Ça vous honore, François, ça vous honore.
On a chacun nos faiblesses. Un faible,
enfin, non, non.
Faiblesse, c'est un faible. Mais, alors, et moi, donc, et je me méfie des romans historiques parce que c'est ce qu'on a maintenant, des romans historiques, des grandes sagas et tout ça. Et ça trompe, c'est trompeur un peu. Mm. Parce qu'on a beau dire c'est un roman, mais dans le fond, si on dit que ça s'est arrivé en 1642, on dit « Ah, c'est arrivé en 1642 », alors que c'est pas arrivé en 1642, mais c'est écrit.
Ceci
est un roman, et à la base, il y a un fait historique, ou quelques faits historiques indéniables. Alors, c'est très intéressant, si vous me le permettez, parce que on appelle ça, le roman s'appelle « Objet d'amour » parce que il raconte... ce roman explore la relation amoureuse qu'il y a eu entre Michel-Ange et un artiste italien de l'époque, Tommaso Cavalieri. Et c'est un amour, sinon platonique, un amour spirituel, mais qui pour Michel-Ange est devenu un désir. Un désir, vous savez, un désir ardent.
Oui, oui.
Et Stendhal, qui est le deuxième personnage dont je vais vous parler, Stendhal connaissait un peu cette histoire de Michel-Ange et de Tommaso, qui est véridique, mais et avait commencé, il était consul de France à Rome dans les années 1830, et il avait commencé une nouvelle sur justement ce désir qu'avait Michel-Ange pour ce jeune Tommaso, qui va avoir une vingtaine d'années de différence. Mm-hmm. Et Stendhal avait dit, Tommaso, le prénom Tommaso, était le digne objet d'amour de Michel-Ange.
Ah, d'où le titre.
D'où le titre, et c'est un objet d'amour, donc autant pour la personne que pour... et ça m'amène à parler du troisième personnage. Et là, riez pas, c'est vrai, ça s'appelle Cigalon.
Je ne ris pas du tout.
Ça porte à rire quand on ne sait pas que Cigalon a bien existé. Il s'appelle Xavier Cigalon.
Oui.
Il a vécu vers la fin du 18e siècle jusqu'à 1837. Et donc, il y a une convergence entre la présence de Stendhal à Rome et de Cigalon. Mais ce Cigalon avait obtenu le mandat d'Adolphe Thiers, qui était royaliste, donc, dans les années 1830, politicien royaliste, de faire la copie du Jugement dernier, cette fresque que l'on trouve à la chapelle Sixtine, donc de faire cette copie pour que les Parisiens, une fois que la copie sera rapportée à Paris, puissent voir, parce qu'il n'y avait pas de photographie dans ce temps-là.
Okay.
Alors, on a dit, voilà, vous allez faire une copie, puis on va l'exposer à Paris. Alors, ça, c'est l'histoire, donc, qui sous-tend le roman. Mais c'est une occasion donc de réfléchir sur l'art, la création, l'amour spirituel, le désir. Il y a une galerie de personnages absolument fantastiques, des personnages réels comme des personnages imaginaires. Mmh. Et c'est aussi une très très agréable promenade dans Rome, même si c'est pas historique, je suis persuadé que les références à Rome oui. sont exactes. Et finalement, puisque je parlais de l'histoire, au point de vue historique, ben c'est tout au fond de ce roman, il y a le choléra. Il y a une épidémie de choléra qui a dévasté qui a ravagé la comme l'amour au temps du choléra, là,
oui,
qui,
oui,
a ravagé,
oui.
qui a ravagé donc l'Europe. De 1825 à 1850 à peu près. Et pour mes amis québécois et québécoises, en 1832, au Québec, il y a eu une épidémie de choléra qui a tué 1200 personnes, oui. À Montréal seulement, et qui avait été amenée par des immigrants irlandais. Alors voilà donc ce roman, et qui se lit, c'est presque, j'allais dire c'est proustien, c'est pas proustien parce que ça va en rebuffer, ça va en rebuter.
Oui, 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 vous avez raison.
Mais c'est tellement bien écrit.
Ah oui, hein? Avez-vous un petit extrait des fois, non?
Oui, est-ce que... une quinzaine de lignes. Là.
Oui, allez-y donc, pour qu'on se rende compte.
Et puis j'ai un restant de bronchite, là, alors vous m'excuserez. Là.
Peut-être
non. que la voix qui n'est pas à niveau, mais... Alors, au moment où il marche dans l'étroite ruelle en contrebas du quai qui suit les courbes du Tibre à contre-courant, la main toujours posée sur l'épaule de son jeune ami, qui a du mal à régler sa marche sur le rythme du peintre, tant cette première nuit romaine et ce premier matin l'ont excité, le poussant à vouloir voler au-dessus de la ville pour avoir tout de suite une vision générale de ce résumé de l'histoire architecturale et religieuse, ruines antiques, façades baroques, palmiers, vastes ombrelles, des pins tors et pourtant droits, fontaines animales, cyprès si beaux de Rome et de la mer intérieure, quand les verra-t-il enfin ? Se demande l'enfant Cassagne en sentant sur son épaule la main de Cigalon. Cigalon ne veut pas se souvenir des années qui précèdent, mais qu'il le veuille ou non, tout est encore présent. Espoir, promesse, gloriole. Faux pas, nouveaux espoirs, nouvelles promesses. Chute, éloignement, désillusion, ombre. Et soudain, inattendu, une main tendue, celle d'Adolphe Thiers.
Oh.
Alors, c'est tout d'un souffle. Ben, enfin, c'est pas tout d'un souffle.
C'est du français, ça, monsieur.
Ah, écoutez, puis c'est comme ça. Moi, c'est ce qui frappe le lecteur.
Mm-hmm.
Et avec grande humilité, on lit ces lignes en espérant que l'auditeur pourra en tirer autant de plaisir que nous en avons tiré.
Écoutez, vous me donnez très, très envie de lire ce livre et je ne doute pas que c'est la même chose de l'autre côté des Andes avec nos auditeurs et auditrices. François
oui.
Côté, merci beaucoup de nous...
J'ai pas 30 secondes, hein?
Oh, bah oui, 30 secondes.
Écoutez, c'est seulement un roman, j'ai fini, non seulement c'est un roman, le roman va de la page 1 à la page 317. 300 pages. Après, il y a 171 pages de sources, de citations, de chronologie. Et dans les citations, il y a justement cette nouvelle de Stendhal, cet essai de Stendhal qu'il n'a jamais terminé,
oui.
que l'auteur a lui-même traduit. Il y a les amis, les parents, l'entourage professionnel de Cigalon, et finalement une chronologie qui fait 41 pages.
Oh.
Alors, si vous n'avez rien compris du roman, comme moi, Vous arrivez à la fin, et là, on vous explique qui était Cassagne, qui était pourquoi Ingres. Écoutez, il y a Ingres là-dedans.
Ah oui.
Il y a plein de gens qui circulaient autour de Cigalon, de la présence française. Alors voilà, c'est un excellent roman, un excellent travail de recherche. Passionnant, et puis j'ai adoré.
Merci beaucoup François Côté. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous parliez d'un livre qui s'appelle Objet d'amour de René de Ceccatti, Ceccatty. Merci beaucoup François, au plaisir.
Bonne année à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai envie tout de suite de passer à l'extrait du jour. Peut-être même qu'il y en aura deux aujourd'hui. Deux extraits pour le prix d'un, quand même, avoué, hein, en ce début d'année. il y aura d'abord un extrait du livre de Marc Cassivi que je recevais en première partie d'émission. Cet essai que certains même appelaient un pamphlet, moi je ne trouve pas, mais qui s'appelle « Mauvaise langue ». Alors en voici un extrait tout de suite. À propos donc de la façon de parler au Québec le français. Ce n'est pas de toute manière notre façon de parler qui est provinciale, écrit Cassivi, mais souvent ce dont on parle. L'angle, trop souvent le même, avec lequel on aborde la politique, notre obsession du local, nos vedettes locales, nos émissions locales, nos rivalités locales, nos polémiques locales, nos préoccupations locales, écrit-il. Un gros village d'irréductibles Québécois qui se complaît dans l'observation de son nombril. On comprend beaucoup qu'il y ait des Québécois qui ont fait « ouch ». Il poursuit « un pays monstrueusement en paix, comme l'a dit Wajdi Mouawad, qui s'intéresse autant à la prononciation à la française du prénom du défenseur vedette du Canadien Piquet Souban qu'aux réfugiés syriens qui l'accueillent le même jour. Rentrer de l'étranger, c'est constater chaque fois à quel point nous vivons en vase clos, imperméable à ce qui se passe hors de nos frontières. Le Québec est une société anti-intellectuelle où la culture et le savoir ont une odeur suspecte. Une société qui se félicite de son inculture, qui érige en héros populaires des animateurs de radio populistes se réclamant du bon peuple et des préoccupations de la classe moyenne du haut de leurs salaires faramineux en sous-estimant l'intelligence de leurs auditeurs. Aïe, aïe. En France, les intellectuels ont non seulement voix au chapitre, nous dit Marc Cassivi, mais ils sont devenus des vedettes médiatiques pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Cet extrait de « Mauvaise langue » dont nous parlions un petit peu plus tôt. Et puis, en tout début d'émission, nous parlions avec Gérald Cousineau de ce livre 2084 que j'ai entre les mains, qui est un livre finalement qui est destiné à nous faire encore plus peur que ce qu'on nous fait déjà peur avec l'islamisme et le fait qu'un jour, eh bien, ils contrôleront la planète entière. Alors là, il nous amène, en parodiant un peu 1984 de George Orwell, Boualem Sansal nous amène en Abistan, un immense empire qui tire son nom du prophète Abi, délégué de Yola sur Terre. Alors, on nous parle de l'Abigouv. C'était l'Abigouv, le cœur du gouvernement d'Abi. Nous sommes en page 134, au centre duquel trônait la Kiba, une majestueuse pyramide haute de 120 sikas, au moins sur une base de 10 hectares, bardée de granit vert étincelant, strié de rouge, tout hiératique, avec sur les quatre versants de son pyramidion l'œil d'Abi, couvant la ville, fouillant continuellement le monde de ses rayons télépathiques. C'était le siège de la juste fraternité. 100 000 bombes ne l'auraient pas fait vaciller. Il y avait à la base de ce regroupement un souci de sécurité, d'efficacité aussi. Pourquoi pas? Mais avant tout, l'objectif était de montrer la force du système et le mystère impénétrable qui le sous-tendait. Un ordre absolutiste se construit de cette manière autour d'un totem indéchiffrable et colossal et d'un chef doué de super-pouvoirs. Autrement dit, sur l'idée que le monde et ses démembrements n'existent et ne tiennent que parce qu'ils tournent autour d'eux. Voilà, 2084, la fin du monde, de Boualem Sansal. La rubrique des nouvelles et des livres maintenant. Il y a un mois maintenant, disparaissait Fidel Castro, qu'on disait éternel. Hein. Alors je suis allée voir sur le sujet Fidel Castro ce qu'on pouvait trouver comme titre au SQLA et j'ai trouvé ceci. Les fantômes de la Sierra Maestra, ça c'est de Paul Hall. Oui, c'est vrai, vous vous en souvenez, il était venu à cette émission pour nous en parler. Paul Hall, les fantômes de la Sierra Maestra ou la rencontre entre le Che, Castro bien sûr, et Hemingway. Alors, c'est la genèse de la révolution cubaine que nous raconte Paul Hall dans ce bouquin. Et c'est un livre très coloré que je vous recommande fortement. Castro, l'infidèle de Serge Raffi, R-A-2-F-Y. Sous-titre, La biographie. Ça, c'est un roman hallucinant, mais vrai, entre thriller politique, chanson de gestes et de réalisme magique à la Garcia Marquez. Cette biographie de Fidel Castro, résultat de longues années d'enquête, de centaines d'entretiens et de témoignages exclusifs sur un personnage historique monumental, tyran missionnaire quand même, marxiste, jésuite, regorge de révélations. Sur quoi ? Alors, sur ses amours tumultueuses, officielles et interdites, sur ses enfants secrets, sa haine viscérale de la famille et des homosexuels, révélations aussi sur ses relations très précoces avec les services secrets soviétiques, sur son terrifiant système répressif, sur les coulisses de la crise des missiles, sur la véritable histoire de l'assassinat du président Kennedy, sur la mort du Che, enfin expliquée, sur le rôle de Cuba dans le dossier chilien qui a abouti à la chute et à la mort de Salvador Allende, sur l'affaire Ochoa, sur la peur de Gorbatchev d'être victime d'un attentat à Cuba, sur le jeu tortueux des USA qui, après avoir tenté de l'assassiner, oui, Castro, à de multiples reprises dans les années 60, ont fini par tolérer ce dictateur pas comme les autres afin d'avoir à leur porte un échantillon communiste inoffensif. Ça s'appelle Castro, l'infidèle de Serge Raffi. La vie cachée de Fidel Castro. Il a été le garde du corps de Fidel Castro pendant 17 ans. Personne avant lui ne s'était risqué à de telles révélations. Les révélations de Juan Reynaldo Sanchez, à qui l'on doit donc la vie cachée de Fidel Castro. Et puis, Fidel Castro, biographie à deux voix. Entretien d'Ignacio Ramonet et Fidel Castro. Résultat de plusieurs semaines d'intenses conversations entre Ramonet et Castro, cette biographie à deux voix donne les clés de la révolution cubaine à travers le parcours personnel et politique du dernier monstre sacré de la politique internationale. Quelle a été son enfance, où et quand s'est forgé le rebelle, quelles étaient ses relations avec Che Guevara, comment sa petite guérilla a-t-elle vaincu la puissante armée de Batista, le monde a-t-il été au bord de la guerre nucléaire pendant la crise des missiles d'octobre 62, combien de fois a-t-on tenté de l'assassiner et combien d'autres questions auxquelles se prête Fidel Castro et auxquelles il répond. Et puis enfin, mes années de jeunesse, et ça c'est de Fidel Castro. Pendant que le monde entier se demande ce qu'il adviendra de Cuba après le règne de Fidel Castro, ce dernier a trouvé la façon de nous surprendre en publiant un livre inattendu et sobrement intitulé « Mes années de jeunesse ». Il ne s'agit pas d'une autobiographie au sens strict du mot, mais d'un recueil d'entrevues accordées par cet homme secret et lors desquelles il se plaisait à aborder les premières années de sa vie, de son enfance, dans une famille bourgeoise, à l'engagement politique du jeune avocat qui mènera à la Révolution de 59. L'ouvrage est coiffé d'une longue préface de Gabriel Garcia Marquez, tout aussi intéressante, traçant le portrait d'un homme de son temps, devenu un dictateur controversé. « Mes années de jeunesse » de Fidel Castro. Alors voilà donc pour ces livres que vous pouvez trouver via le SQLA ici ou encore via CAEB partout dans au pays. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien qu'on s'en va à la bande-annonce de la semaine prochaine. En ce début d'année, il n'est pas rare que nous souhaitions la santé aux gens que nous aimons. Hein. Eh bien, notre invitée de la semaine prochaine, elle a perdu la santé il y a 6 ans maintenant, bientôt 7 ans. 7 ans à vivre avec un cancer incurable dont elle s'est finalement guérie et d'autres récidives. Et pourtant, Joanne Fontaine, parce qu'il s'agit bien d'elle, si elle a perdu la santé, a toujours conservé le moral et elle est restée celle qu'elle était avant la maladie, c'est-à-dire une femme débordante de vitalité, une femme qui nous dit, et c'est d'ailleurs le sous-titre de son livre « Hop, la vie », « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». En 4e de couverture, il est écrit ceci, mars 2010, diagnostic de cancer incurable. Joanne Fontaine a l'intime conviction que son histoire et ses anecdotes, bien que différentes des vôtres, se recoupent en relation avec ce qu'elles nous permettent de devenir. Que ce soit un diagnostic médical, la séparation de nos parents, l'alcoolisme d'un père ou d'une mère, le sentiment de rejet ou d'abandon, une injustice, la mort d'un proche, la fin d'une vie de couple, un congédiement, une faillite, un viol, une maladie physique ou mentale, des relations conflictuelles, tous sont autant de drames et de cicatrices qui nous marquent à jamais. Nous avons le choix de l'attitude à adopter, de lâcher prise et demander de l'aide. Les outils qui s'offrent à nous sont nombreux et Joanne tient à partager ses trucs, ses pistes de réflexion, suggestions et moyens pour vous aider à traverser des épreuves. On ne sait jamais ce qui va nous aider à les surmonter lorsque tout s'écroule autour de nous. Alors, Hop la vie, c'est le titre de ce livre. Entreprenons ensemble un voyage où l'amour de soi et l'espoir se donnent rendez-vous. Faut-il rappeler que Joanne Fontaine est cette comédienne depuis 40 ans, qui est également coach de vie depuis 8 ans, qu'on a vu à l'émission Les Copines d'abord. Elle a débuté comme improvisatrice dans la LNI. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, beaucoup d'allants, beaucoup de bagout. Et c'est pas un cancer double ou triple qui va la retenir et l'empêcher de vivre. Alors ne manquez pas ça la semaine prochaine. Et je vous lis un extrait. Nous sommes en page 37. On vient seulement de lui apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer aux intestins et que son foie est atteint avec métastase au foie. Et donc, on vient de lui apprendre que c'est absolument incurable. Et on lui donne maximum 2 ans à vivre. Et là, elle est avec le médecin. Le médecin est assis sur son lit dans sa chambre d'hôpital et ils ont cette discussion. Mais dites-moi maintenant, qu'est-ce que je peux manger ? Lui demande-t-elle au médecin. Et le médecin de lui répondre, mais ce que vous voulez, Madame Fontaine ? Ce que je veux ? Oui, tout à fait. Alors là, vous êtes vraiment nul, dit Joanne Fontaine au médecin. Je viens de subir de graves opérations. J'ai un cancer du côlon. Et vous me dites que ce que j'ingurgite n'a aucune importance ? Voyons donc, ça n'a aucun sens. Le médecin de dire, vous savez, pendant nos études universitaires, notre cours sur l'alimentation n'était que de 45 heures. Alors, je ne connais pas grand-chose à l'aspect alimentaire, alimentation. Je suis complètement soufflé. Le cancer est une des maladies du siècle. Une personne sur trois a le cancer. Et les chirurgiens et les oncologues sont incapables de nous dire ce qu'il serait préférable de manger. Et en plus, la plupart des médecins ne croient pas au bienfait des thérapies dites douces. L'approche holistique, ce n'est pas pour les scientifiques du Québec. Vraiment, quel monde! Heureusement, dit Madame Fontaine, que j'ai lu le livre « Guérir » de David Servan-Schreiber. Il m'a donné beaucoup d'espoir. Et puis j'ai reçu en cadeau le livre du docteur, chercheur renommé, conférencier populaire et écrivain Richard Béliveau. J'estime qu'il a toutefois tendance à culpabiliser celles qui ont le cancer, comme si nous avions choisi d'en souffrir. Mais ses suggestions pour un régime alimentaire sain sont une bonne source d'inspiration et d'information. Je me débrouillerai et je prendrai rendez-vous avec une naturopathe. C'est tout de même curieux qu'aucun docteur ne m'ait proposé de rencontrer une nutritionniste ou une diététicienne. Il me semble qu'avec une maladie du système digestif, ça tombe sous le sens. Mais comme je suis incurable, selon eux, peut-être que ce n'est plus nécessaire, mystère. Il m'est impossible de monter aux barricades, je suis trop faible et j'ai tellement hâte de sortir de l'hôpital pour entreprendre un cheminement pour déjouer toutes leurs statistiques. Vivre, vivre, voilà le but de ma vie, vivre. Vous avez été très nombreux à adorer L'Ami prodigieuse. Eh bien, voici le tome 2, L'Ami prodigieuse 2, le nouveau nom d'Elena Ferrante. Nous sommes à Naples dans les années 60. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahi en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Je ne vous en dirai pas plus sur ce livre-là parce que si vous n'avez pas lu le premier, et c'est vraiment dommage, vous n'allez rien comprendre de toute façon à ce que je vous raconte. Alors, allez donc vous procurer L'Ami prodigieuse 1 et le tome 2 qui vient maintenant d'arriver. « Avenue des Mystères de John Irving. Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, écrivain américain célèbre et vieillissant, revit en rêve récurrent les épisodes de son adolescence au Mexique, à la lisière de la décharge publique de Oaxaca, où lui et sa sœur Lupe ont grandi. Dépaysement assuré dans ce récit jubilatoire et débridé qui se teinte de gravité lorsqu'il aborde les mystères insondables de la condition humaine. Bernard Landry, l'homme fidèle de Bernard Landry. Une nation qui est la simple province d'une autre nation, ça dépasse l'entendement, nous dit Bernard Landry, dans ce livre d'entretien passionnant qui couvre les 50 dernières années de la vie politique québécoise. L'ancien Premier ministre est en éternelle mission, mais à 78 ans, le long combat qu'il a mené risque de ne pas connaître le dénouement qu'il souhaite. Condamné par René Lévesque à l'économie, il s'est battu toutes ces années pour la création de la richesse sur cette terre qu'il chérit et chérira au-delà du temps. Témoin privilégié de l'histoire moderne du Québec, Bernard Landry revient également sur des passages fascinants qui ont marqué sa carrière, des années fabuleuses du gouvernement Lévesque à l'acharnement des journalistes, de sa fracassante démission en 2005 à la dernière phrase que lui a dite Pierre Elliott Trudeau quelques mois avant sa mort. « Tu sais, Bernard, j'aurais pu choisir l'autre option. » Pour les gens qui sont intéressés, je passe vite là-dessus, mais le Chardon et le Tartan. Il y a deux nouveaux livres qui viennent de sortir, le 8.1 et le 8.2. J'imagine que les amateurs apprécieront, bien évidemment, ces deux Diana Gabaldon. Alors, si vous vous demandiez quand est-ce qu'ils vont arriver les prochains, eh bien, ils sont arrivés. Je finirai avec Les pierres blanches de Catherine Allégret, une jeune femme arrachée à sa nourrice qui vit, elle est arrachée à sa nourrice, elle est mise en pension. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dans cette pension, eh bien, c'est une jeune fille de son âge qui lui redonne goût à la vie. C'est écrit par Catherine Allégret, nulle autre que la fille de Simone Signoret. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus, mes amis. C'était l'émission Des livres plein les oreilles qui vous était présentée comme chaque semaine par Clotilde Seille. Merci à Jean-Sébastien Laliberté. Merci beaucoup à Anne-Laure Janson aussi d'avoir prêté main forte à cette émission-là. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, non sans vous souhaiter de bonnes lectures. Merci à Marc Cassivi, François Côté et Gérald Cousineau qui étaient mes chroniqueurs aujourd'hui et invités. Salut!